Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne podcast de Cessia. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un sujet passionnant et essentiel, l'accessibilité.
VoiceOver activé.
Si vous aimez plonger dans des discussions enrichissantes et explorer de nouvelles perspectives, vous êtes au bon endroit. Laissez-nous vos impressions en commentaire et embarquez avec nous pour cette aventure captivante.
Imaginons une entreprise qui décide de concevoir un jeu de société.
D'accord.
Le cahier des charges, il est très clair. Ce jeu, il est spécifiquement destiné à des personnes aveugles ou sévèrement malvoyantes.
Très bien. Un vrai défi d'ergonomie, du coup.
Voilà, exactement. Donc, les ingénieurs se mettent au travail, ils repensent tout, hein, les textures, les matériaux, l'ergonomie globale. Et à la toute fin du processus de fabrication, ils prennent une décision qui semble complètement contre-intuitive.
Ah oui. Laquelle ?
Ils décident de peindre le plateau de jeu avec les couleurs les plus vives et les plus fortement contrastées possibles.
Ah, en effet.
Bah oui, pourquoi prendre la peine et surtout dépenser du budget pour maximiser l'impact visuel d'un objet destiné à des gens qui, par définition, ne voient pas ou presque pas.
C'est un paradoxe fascinant pour ouvrir notre exploration du jour. Et je dirais même que la réponse à cette question remet en cause une grande partie de nos idées reçues sur la perception et la conception des objets qui nous entourent.
C'est clair. Ce paradoxe visuel, c'est pas du tout une erreur de conception. C'est au contraire l'aboutissement d'une réflexion extrêmement poussée sur ce qu'est réellement le handicap.
Et pour comprendre cette réflexion, on plonge aujourd'hui au cœur d'un document qui pourrait, à première vue, sembler purement commercial, quoi.
Oui, on pourrait croire à une simple brochure.
Exactement. Il s'agit d'une page issue du catalogue en ligne de la société Cessia. C'est un fournisseur spécialisé. Et plus précisément, on va décortiquer ensemble la fiche technique d'un grand classique, un jeu de dames magnétique en braille avec repère tactile.
Un objet très spécifique, voilà. Et l'objectif de notre analyse pour notre audience, ce n'est pas de faire l'inventaire d'un magasin, c'est d'utiliser ce simple damier comme une loupe. Analysons un peu cela. En regardant de près comment on adapte un jeu aussi vieux que le monde, on décode soudainement tout un univers d'ingénierie, d'économie et d'inclusion.
C'est tout à fait ça. Ce catalogue, c'est un outil d'analyse redoutable quand on y pense.
Ah ouais, complètement.
Quand on prend le temps de lire les descriptions techniques, les prix, les différentes catégories, on réalise que ce n'est pas une simple liste de produits. C'est littéralement la cartographie d'un monde parallèle.
Un monde parallèle, le mot est bien choisi, ouais.
Un monde où des gestes quotidiens que la majorité de la population effectue sans même y penser, comme lire l'heure, allumer un four ou juste jouer aux dames, nécessite une ingénierie de traduction constante. Et ce jeu de dames, c'est vraiment le point de départ idéal pour comprendre cette mécanique.
Alors commençons par la matérialité de cet objet, parce que c'est du lourd au sens propre.
Oui, la fiche technique est précise.
La description nous indique qu'il s'agit d'un plateau de 33 cm sur 34 cm. Il repose sur une base en bois massif qui est recouverte d'un plateau métallique.
C'est du solide.
C'est ça. Il comprend 24 pièces, donc 12 blanches, 12 noires, et il est vendu au prix de 119,90 €.
Ah oui, c'est pas donné, hein ?
Non, clairement pas. C'est pas le petit jeu en carton premier prix qu'on glisse dans une valise pour les vacances, quoi.
Non, ça n'a rien à voir.
Mais il y a l'interme technique qui saute aux yeux dans la description, c'est le mot « magnétique ». Et là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, une seconde.
Je t'écoute.
On a tous connu cette frustration monumentale de bousculer un plateau en pleine partie.
Oh oui, le fameux coup de coude.
Voilà, le coup de coude, un chien qui passe sous la table, un geste brusque. Bon, pour des joueurs voyants, c'est agaçant. On râle un peu, mais on remet les pions à peu près où ils étaient et on reprend.
C'est vrai.
Du coup, pourquoi, dans ce cas précis, justifier une refonte magnétique totale avec cette fameuse base en bois et ce plateau en métal lourd ? Est-ce que c'est pas, un peu excessif pour un simple jeu de dames ?
C'est une excellente question et en fait, ça touche au cœur de la différence fondamentale entre la perception visuelle et la perception tactile.
D'accord.
Pour comprendre l'absolue nécessité du magnétisme ici, il faut complètement changer de paradigme perceptif. Un joueur voyant prend l'information à distance, tu vois.
Ouais, avec les yeux, d'un coup.
Exactement. Ses yeux balaient le plateau, en une fraction de seconde, saisissent la position des 64 cases et des pièces, et ça sans jamais interagir physiquement avec l'objet. C'est une observation passive.
C'est logique, oui.
Par contre, pour un joueur aveugle, l'observation est obligatoirement active. et physique. Pour savoir où en est la partie, la personne doit littéralement passer ses mains sur le plateau, palper les cases, identifier les pièces par le toucher.
Ah, je vois. Ah ouais, d'accord. Si les pièces ne sont pas solidement ancrées au plateau, l'acte même de regarder la partie avec ses mains risque de la détruire, en fait.
Exactement.
C'est un peu comme si l'action de lire un livre effaçait l'encre des pages à mesure qu'on avance dessus.
C'est une super analogie, c'est exactement cela. Si un joueur voyant bouscule le plateau par accident, il a une mémoire visuelle immédiate de la disposition. Il corrige l'erreur en un clin d'œil.
Ouais, on remet le pion sur la case noire et c'est reparti.
Voilà. Mais pour un joueur qui construit la carte mentale de la partie par un balayage tactile qui est lent et séquentiel, perdre l'emplacement exact d'une pièce juste parce qu'on l'a effleurée par erreur, c'est perdre tout le fil de la stratégie.
C'est dramatique pour le jeu, quoi.
Complètement. Le magnétisme n'est donc pas du tout un gadget de confort ou un petit bonus pour éviter les maladresses. C'est la condition technique élémentaire qui permet la lecture répétée et sécurisée du jeu. En fait, sans ces aimants, le jeu est purement et simplement injouable.
C'est fascinant. La physique de l'objet est carrément modifiée pour permettre cette lecture tactile. Mais du coup, ça nous amène à un deuxième défi majeur de conception, je trouve.
Lequel ?
Le jeu d'âme, par définition, c'est un jeu de couleurs. Les règles reposent entièrement sur la distinction visuelle entre les cases claires et foncées et entre les pions de deux couleurs opposées.
C'est la base du jeu, oui.
Donc, comment les concepteurs traduisent-ils une information purement lumineuse, la couleur, en une information physique tactile ?
Eh bien, la documentation détaille un processus de traduction tactile très précis. Prenons le plateau d'abord, si tu veux bien.
Vas-y.
Les cases foncées ne sont pas juste d'une couleur différente. Elles sont physiquement texturées au toucher.
Ah, on sent la différence sous le doigt.
C'est ça. Ensuite, il y a un élément crucial. Un relief tactile encadre chaque case. Et ce n'est pas seulement pour délimiter l'espace. Ça crée une vraie frontière physique qui guide le doigt et facilite le positionnement du pion magnétique au centre parfait de la case.
Pour pas le mettre à cheval sur deux cases, en gros.
Exactement. Et quant aux pièces elles-mêmes, l'identification se fait par des points tactiles. Et la grande subtilité ici, c'est que ces repères en relief ne sont présents que sur les pions noirs.
Ce qui est super logique en fait.
Bah oui.
Il n'y a pas besoin de mettre des repères différents sur les deux couleurs. La règle, elle devient binaire au toucher.
Tout à fait.
Soit le pion est parfaitement lisse, soit il a des points en relief. Blanc équivaut à lisse, noir équivaut à texturé. C'est une traduction directe et super efficace.
Une belle traduction matérielle, oui.
Mais attends, ça nous ramène directement à notre grand paradoxe du tout début de notre exploration.
Ah, les couleurs vives.
Ben oui. Si tout a été si intelligemment pensé pour le toucher, pourquoi la description insiste-t-elle sur le fait que le plateau métallique utilise des couleurs contrastées ? Si l'information passe par les doigts, pourquoi la peinture a-t-elle la moindre importance ?
Parce que notre conception globale de la déficience visuelle est souvent complètement erronée.
Comment ça ?
Le grand public imagine généralement le handicap visuel comme un interrupteur. Soit la lumière est allumée, soit on est dans le noir complet.
Le cliché du bandeau sur les yeux, quoi.
Voilà. Or, la réalité clinique est très différente. La déficience visuelle, c'est un spectre immense. La grande majorité des personnes malvoyantes ont ce qu'on appelle un reste visuel.
Un reste visuel, d'accord.
Oui, c'est-à-dire qu'elles peuvent percevoir des masses, des variations de lumière, des contours flous, mais elles manquent cruellement d'acuité pour les détails précis.
Ah, d'où la mention explicite « aveugle ou malvoyante » dans le titre du produit sur le catalogue. C'est une nuance fondamentale.
Tout à fait. Pour une personne malvoyante, un contraste chromatique extrême, imaginons par exemple un jaune éclatant contre un noir très profond, ça permet d'exploiter au maximum ce reste visuel.
D'accord, je comprends mieux.
Le cerveau arrive à distinguer les zones grâce à la violence du contraste, là où un jeu de dames classique, avec ses petites nuances subtiles de beige et de marron, ce serait juste une bouillie visuelle incompréhensible.
Donc le coup de génie de ce design, c'est d'avoir pensé aux deux en même temps.
Celles superposées. Sur un seul et même objet, on a superposé une interface visuelle extrême pour les malvoyants et une interface physique complexe avec des textures et du braille pour les aveugles.
Ou même pour les malvoyants dont les yeux se fatigueraient après 30 minutes de concentration intense sur le plateau.
C'est un excellent point. La fatigue visuelle est un vrai sujet.
L'objet s'adapte à de multiples réalités perceptives en simultané. C'est de la haute ingénierie appliquée à un objet du quotidien. C'est brillant.
Et d'ailleurs, ça soulève une question plus large qui est abordée de front dans la documentation.
Oui, dans l'onglet des préconisations. Voilà. On y trouve un argumentaire expliquant pourquoi ces jeux adaptés sont si vitaux. Et la réponse va bien au-delà de la simple envie de tuer le temps à dimanche après-midi. Le texte parle de briser l'isolement et surtout d'éviter la fameuse dépendance constante.
Cette notion de dépendance constante, c'est le véritable nœud du problème social, tu sais?
J'imagine, oui.
Imagine jouer à un jeu de société classique en étant malvoyant. À chaque tour, tu dois demander à la personne en face de toi « Où est mon pion? Est-ce que la case devant moi est vide? Est-ce que je peux bouger ma pièce ici sans me faire prendre ?»
L'enfer, c'est hyper frustrant.
Bah, tu ne joues plus vraiment, en fait. Tu demandes à quelqu'un de jouer à ta place par procuration. Ce que cet objet magnétique et tactile restitue, c'est l'autonomie pure.
L'égalité des chances face au plateau.
Exactement. C'est le droit fondamental de s'asseoir à une table, d'appliquer les mêmes règles que tout le monde et d'affronter un adversaire, qu'il soit voyant ou non, sur un pied d'égalité totale. La dignité sociale passe énormément par le loisir partagé. On l'oublie trop souvent.
C'est tellement vrai. Le document mentionne aussi un aspect cognitif très intéressant pour le coup. Jouer à ces jeux adaptés permet de stimuler la stratégie, la mémoire et de renforcer les compétences en braille de manière, je cite, « naturelle ».
Oui, le braille naturel.
Et ça soulève un point crucial sur la rééducation, je trouve. On entend parfois des analogies un peu simplistes, comme le fait de cacher des légumes dans le plat d'un enfant pour lui faire apprendre des choses sans s'en rendre compte.
Une approche très pédagogique.
C'est ça. Mais pour un adulte qui perd la vue suite à une maladie ou un accident grave, l'apprentissage du braille, bah, ça n'a rien d'un jeu d'enfant. C'est un processus atrocement difficile, frustrant et fastidieux.
Oh oui, réapprendre à lire avec le bout de ses doigts, ça demande une neuroplasticité immense.
Donc, le fait d'intégrer cet apprentissage dans un jeu, c'est pas juste un petit truc pédagogique mignon, c'est une véritable soupape de décompression psychologique. On transforme un exercice médical épuisant en un moment de loisir où la progression se fait au service du jeu, et non de la contrainte pure.
C'est une très juste observation. L'autonomie demande des efforts cognitifs colossaux, et tout ce qui peut fluidifier cet effort, c'est vital. Et c'est justement là que notre analyse prend vraiment de l'ampleur.
Ah, on passe à l'étape supérieure.
Oui. Si le simple fait de garantir le droit au loisir nécessite une telle refonte technique, on est en droit de se demander qu'en est-il du reste du quotidien?
La question à 1 million.
Bah oui. Quand on sort de la page de ce jeu d'âme et qu'on navigue sur le reste du catalogue de ce fournisseur, on découvre un écosystème technologique mais vraiment étourdissant.
C'est le mot oui. Les menus de navigation dévoilent une réalité complètement insoupçonnée pour beaucoup de gens.
C'est impressionnant.
On y trouve des catégories pour l'organisation de la maison, des thermomètres médicaux parlants, des détecteurs de luminosité, mais il y a aussi des accessoires du quotidien qui ont été complètement repensés de A à Z. J'ai noté l'exemple d'une montre. La montre On Bradley, affichée à 339 euros.
Ah, un grand classique du design inclusif.
Bah, explique-nous, parce qu'au lieu d'un écran en verre et de petites aiguilles fragiles, comment on lit l'heure sur ce type d'objet, exactement?
La mécanique de cette montre est tout simplement brillante. En fait, il n'y a pas de verre de protection du tout. À la place des aiguilles classiques, le cadran utilise deux petites billes métalliques.
Des billes?
Oui. L'une tourne sur la face avant de la montre pour indiquer les minutes, et l'autre tourne sur la tranche, sur le bord de la montre, pour les heures.
D'accord, c'est original.
Ces billes sont entraînées par des aimants qui sont cachés à l'intérieur du mécanisme, donc la personne passe le doigt sur le cadran pour sentir la position des billes par rapport au repère en relief des heures.
Mais attends, j'y pense, si on touche les billes, on risque de les déplacer, non? On revient exactement au problème du jeu de dames où la lecture tactile altère l'objet.
C'est là que l'ingénierie interne intervient, et c'est magique. Si tu déplaces accidentellement la bille avec ton doigt en la lisant, le mécanisme interne, lui, il continue de tourner normalement. Il te suffit de donner un petit coup de poignet sec, et clac ! La bille est magnétiquement rappelée à l'endroit exact de l'heure courante.
Ah ouais, c'est malin.
C'est une solution mécanique tellement élégante, un problème complexe. Mais, il faut bien le dire, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Quand on s'enfonce dans les sections informatiques du catalogue, là, on entre dans une autre dimension technique.
C'est le cas de le dire. L'informatique vocalisée est tactile. Et d'ailleurs, les prix deviennent vertigineux.
Oui, on change de gamme de budget.
On trouve des appareils appelés VoxiVision, vendus à 1689 euros. Et puis, il y a ce qu'on appelle des plages braille, qui peuvent aller allègrement atteindre les 2599 euros.
C'est un investissement lourd.
C'est un budget colossal pour un périphérique informatique, on est d'accord. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une plage braille pour justifier une telle somme? Ce n'est quand même pas juste un clavier en plastique, si?
Absolument pas. Une plage braille, c'est une véritable merveille de micro-ingénierie.
Explique-nous ça.
Contrairement à un écran d'ordinateur classique qui se contente de changer des pixels de couleur, une plage braille doit modifier dynamiquement une surface physique.
D'accord, en temps réel?
C'est ça. Sous le boîtier de l'appareil, il y a des centaines de minuscules picots en plastique ou en métal. Et sous chaque picot se trouve un cristal piézoélectrique.
Piézoélectrique, waouh, d'accord.
Oui, quand l'ordinateur envoie une très légère impulsion électrique, ce cristal se déforme, il s'allonge et il pousse littéralement le picot vers le haut pour former un point braille sous le doigt de l'utilisateur.
Ah ouais, et quand le courant s'arrête ?
Dès que l'impulsion s'arrête, le cristal reprend sa forme et le picot redescend. Le dispositif traduit donc en temps réel, ligne par ligne, le texte numérique qui s'affiche à l'écran en un relief physique fluctuant.
C'est bluffant.
C'est une technologie de très très haute précision, ce qui explique en grande partie son coût de fabrication exorbitant.
C'est incroyable de penser à ces milliers de cristaux qui s'activent et se rétractent en permanence sous les doigts. C'est de la science-fiction devenue réalité. Dans les descriptions informatiques du site, on voit aussi passer beaucoup d'acronymes techniques.
Ah, les fameux acronymes, oui.
Et au lecteur DAISY. Pour clarifier les choses pour notre audience, que font exactement ces deux technologies ?
Alors, l'OCR, ça veut dire Optical Character Recognition ou reconnaissance optique de caractère en bon français.
Très bien.
C'est vraiment un pont entre le monde imprimé et le monde numérique. Concrètement, ça permet à une personne malvoyante de prendre en photo un document papier, disons le menu d'un restaurant ou une facture importante reçue par la poste.
D'accord, on prend la photo. Et après ?
Le logiciel analyse l'image, il reconnaît la forme géométrique de chaque lettre, il reconstitue les mots entiers et les lit ensuite à haute voix grâce à une synthèse vocale de pointe. D'un coup, l'environnement papier devient accessible.
C'est génial pour l'autonomie au quotidien. Et le format DAISY, c'est quoi ? J'imagine que c'est pas juste un simple fichier MP3 ou un petit fichier audio.
Non, c'est beaucoup plus structuré que ça. DAISY, c'est une norme internationale pour les livres audio adaptés.
Ok.
Quand tu écoutes un livre audio classique, c'est un flux continu. Tu appuies sur play et ça déroule. Mais si tu lis un manuel scolaire ou un document de travail hyper dense, t'as besoin de pouvoir aller directement au chapitre 4, à la page 112, ou de sauter le paragraphe actuel.
Ah oui, chercher une info précise dans un audio de 10 heures, c'est l'enfer.
Voilà. Le format DAISY encode toute l'architecture du livre. Le lecteur peut naviguer dans l'audio exactement comme une personne voyante feuillette un livre physique, en utilisant des boutons pour sauter de titre en sous-titre, de page en page.
D'accord, donc l'utilité de toutes ces technologies est indéniable. Ça change la vie, littéralement. Mais on doit absolument parler du coût. C'est l'éléphant dans la pièce, là.
Le nerf de la guerre ?
Bah oui. On a évoqué des montres à plus de 300 euros, des lecteurs à près de 1700 euros, des périphériques à 2600 euros, des logiciels à plus de 2000 euros. Et le catalogue de Cessira nous donne un indice assez révélateur sur cette réalité. On y trouve des rubriques massives dédiées aux reconditionnés, aux dépôts-ventes et aux fins de stock.
Un marché parallèle, en fait.
C'est ça. Ce qui soulève la grande question économique de l'accessibilité. Pourquoi ces outils coûtent-ils le prix d'une voiture d'occasion ? Est-ce qu'il s'agit de marges abusives sur un public captif qui n'a pas le choix ? Ou est-ce qu'il y a une autre explication, plus technique ?
C'est la dure loi des économies d'échelle, en fait. Quand un grand constructeur développe un nouveau smartphone classique, les coûts de recherche et développement, qui s'élèvent souvent à des dizaines de millions, ils sont amortis sur des dizaines de millions d'acheteurs dans le monde.
Le volume écrase le coût, oui.
Exactement. Le coût de la technologie par unité devient complètement dérisoire. Mais dans le domaine du handicap visuel, le marché est malheureusement considéré comme une niche.
Il y a beaucoup moins d'acheteurs potentiels.
Voilà. Les investissements initiaux en recherche, pour concevoir ces fameux cristaux piézoélectriques si complexes ou ces algorithmes d'OCR très spécialisés, ils restent très élevés. Mais ils ne peuvent être rentabilisés que sur quelques milliers de ventes à peine. Donc, le coût unitaire explose mécaniquement. L'autonomie a donc un prix matériel extrêmement lourd.
Ce qui explique parfaitement pourquoi le marché de l'occasion n'est pas juste une petite option écologique sympa pour cette communauté.
Pas du tout, non ?
C'est une nécessité vitale de survie économique. En fait, sans ces dépôts-ventes et ces circuits de reconditionnement, la majeure partie de cette population serait tout simplement exclue de l'accès à sa propre autonomie, faute de moyens financiers. C'est une forme de double peine quand on y réfléchit.
Ah oui, le terme est très juste.
La contrainte physique du handicap s'accompagne d'une sorte de taxe financière colossale pour pouvoir s'équiper et vivre normalement.
C'est un constat systémique vraiment profond que l'on dresse là, simplement en observant l'organisation d'une boutique en ligne. L'ingéniosité technologique repousse les limites du handicap chaque jour, c'est fabuleux. Mais elle se heurte sans cesse, inévitablement, au plafond de verre du pouvoir d'achat.
C'est frappant de voir le chemin que nous venons parcourir dans cette analyse, tu vois ?
C'est un beau voyage.
Ouais. On est parti d'un constat en apparence super trivial. Les dimensions physiques et les aimants d'un damier de 33 cm sur 34. Et de là, on a découvert comment la texture, le relief et les couleurs contrastées sont superposées pour traduire une réalité visuelle en données fiables.
Tout ça pour éviter le piège de la dépendance constante.
Exactement. Et puis, la navigation dans ce catalogue nous a dévoilé une architecture entière de solutions, de la montre magnétique à la fameuse plage Braille, tout en révélant la dure réalité économique qui accompagne ces innovations.
Le coût de l'autonomie, oui.
Mais il y a un dernier détail dans l'arborescence de ce site qui mérite vraiment qu'on s'y arrête pour terminer notre plongée. Parmi les catégories d'équipements, on trouve une section sobrement nommée « Sensibilisation et rééducation ».
Ah ! Cette catégorie particulière, elle est fascinante parce qu'elle nous oblige à retourner complètement notre lentille d'analyse.
C'est-à-dire ?
Jusqu'à présent, on a regardé comment la technologie aidait la personne à s'adapter à son environnement. Mais cette idée de sensibilisation soulève une question beaucoup plus vaste sur notre responsabilité collective, à nous tous.
En tant que société ?
Oui. Si l'on doit déployer une ingénierie aussi folle et complexe, on parle de cristaux électriques, d'algorithmes optiques, de réseaux d'aimants, juste pour rendre accessible un jeu de dames ou un banal menu de restaurant, il faut peut-être s'interroger sur l'environnement de base dans lequel on vit.
C'est très vrai. Et ça mène à une réflexion hyper concrète quand on y réfléchit bien. Prenons un exemple bête de la vie courante, l'électroménager.
Oui, allons-y.
Il y a 20 ans, un four à micro-ondes, ça fonctionnait avec de grosses molettes physiques et des gros boutons poussoirs qui faisaient un bon gros bruit de clic.
Clac, clac, oui.
Une personne aveugle pouvait parfaitement mémoriser la position d'écran de la molette et utiliser l'appareil en totale autonomie sans aucun écran. Mais aujourd'hui...
Aujourd'hui, la grande majorité des micro-ondes utilisent des panneaux de contrôle complètement plats, entièrement tactiles et lisses, recouverts de verre.
Qui nécessitent obligatoirement de voir où l'on pose le doigt. Et pour la population voyante, on appelle ça le progrès technologique, le design épuré, le futur, quoi.
Voilà. Et pour la personne non-voyante, ce fameux progrès génère soudainement une incapacité totale à se faire réchauffer un simple repas. Le handicap n'était pas présent face à l'ancien micro-ondes à molette.
Il a été créé de toutes pièces.
Il a été littéralement fabriqué par le nouveau design de l'objet. Notre société moderne est presque exclusivement construite autour de stimuli visuels exclusifs.
C'est tellement vrai.
Les écrans lisses, la signalétique urbaine, les éclairages, les interfaces de nos téléphones, tout présuppose la vue. L'environnement construit génère l'handicap au moins autant que la biologie, si ce n'est plus.
C'est une pensée qui remet absolument tout en perspective pour clôturer cette exploration. Le handicap réside-t-il vraiment dans le corps de l'individu ou bien dans l'incapacité un peu arrogante de notre environnement à prévoir autre chose qu'une norme visuelle unique ?
C'est une question dérangeante mais nécessaire.
Totalement. Si la conception d'un simple jeu de dames aux 64 cases nécessite une telle volonté d'adaptation de la part d'ingénieurs, sommes-nous prêts, collectivement, à repenser l'entièreté de notre monde matériel avec le même niveau d'ingéniosité et de respect ?
Le défi est lancé.
La prochaine fois que nos doigts effleureront une belle surface tactile bien lisse ou que l'on regardera un plateau de jeu sur une table de salon, rappelons-nous que ce qui semble être une simple évidence visuelle pour les uns représente pour d'autres une véritable frontière technologique qu'il a fallu minutieusement conquérir pour conserver le simple droit d'exister en toute autonomie. Et c'est là-dessus qu'on va vous laisser réfléchir pour cette fois.
Merci infiniment à tous nos abonnés d'avoir écouté le podcast de Cessia, le podcast de l'accessibilité. Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous et avons hâte de vous retrouver pour un nouveau podcast. Vos idées et suggestions nous inspirent, alors n'hésitez pas à nous les partager. À très bientôt et prenez soin de vous.